France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, législative, mode d'emploi. On parle en effet beaucoup depuis le soir du second tour de la présidentielle de ces élections qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. On en parle car les états-majors politiques sont en train de préparer les investitures. Mais comment les choses vont-elles se passer précisément? C'est ce que nous allons voir ce soir. Mode de scrutin, circonscription, mandat. On répond à toutes vos questions sur le déroulement de l'élection, mais aussi sur les missions des 577 députés qui composeront l'Assemblée nationale, sur leur façon de travailler entre Paris et leur circonscription, sur la pression exercée par les lobbies, sur la mainmise du gouvernement aussi, sur le travail parlementaire, sur les marges de manœuvre qu'il reste ou pas aux différents groupes qui composent l'Assemblée. À mes côtés, pour répondre à toutes vos questions, deux invités que je salue. Laurent Grandguillaume, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ex-député, vous avez raccroché il y a 5 ans déjà, ex-député socialiste de la Côte d'Or, ex-élu local également. Vous avez décidé de ne pas vous représenter et vous aviez publié un livre avec Laurent Guillaume, intitulé « Je vote ou pas » aux éditions Albin Michel. Olivier Rosenberg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Vous êtes spécialiste de la vie parlementaire, auteur aux presses de Sciences Po d'un ouvrage intitulé « Les députés français et l'Europe ». Alors n'hésitez pas surtout à leur poser toutes vos questions à nos deux invités. Ne faites pas les timides, n'hésitez pas à appeler le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pour commencer, un premier appel qui nous vient de Paris. Bonsoir Dylan.
Bonsoir.
Merci d'avoir appelé le standard de France Inter. Vous aviez une question?
Oui, j'avais une question pour Monsieur Duhamel.
Alors Monsieur Duhamel, il n'est pas resté avec nous, mais nous avons deux bons spécialistes pour répondre aux questions des auditeurs. Hein. Olivier Rosenberg, qui est prof de sciences politiques, et Laurent Grandguillaume, qui est un ancien député. Je vous écoute Dylan.
Oui, tout à fait. Je me posais la question de si la cohabitation avec Mélenchon était vraiment possible.
Dans quelles conditions ce serait éventuellement une possibilité à l'issue de ces élections? Merci Dylan pour cette question. On va vous répondre. Olivier Rosenberg, Jean-Luc Mélenchon effectivement a présenté l'enjeu des élections législatives en parlant de cette possible cohabitation. Est-ce qu'il y a une règle à l'issue d'un scrutin comme celui-là?
Il y a pas de.
Si une majorité est issue des urnes, il faut nommer un premier ministre qui correspond a priori à la majorité qui sort des urnes.
La Constitution nous dit que le président peut nommer qui il veut comme premier ministre. Mais elle nous dit aussi que l'Assemblée nationale peut renvoyer le gouvernement sur un simple vote, qui sont les motions de censure. Donc le président, pour ne pas être désavoué, pour ne pas être ridicule, pour ne pas ouvrir une crise ou qui lui serait défavorable, doit anticiper un Premier ministre acceptable aux yeux de la majorité parlementaire. Donc le pari de Mélenchon, c'est qu'il y ait une majorité absolue pour la gauche d'une part, et d'autre part une majorité suffisamment soudée pour renvoyer n'importe quel autre Premier ministre qui serait nommé par Macron et qui ne serait pas Jean-Luc Mélenchon. Et ça fait pas mal de si, mais c'est une possibilité qui existe.
En tout cas, il faut tenir compte de la majorité qui sort des urnes. On a vu ça dans le passé lors des périodes de cohabitation, Laurent Grandguillaume.
Oui, bien sûr, il faut prendre en compte d'abord le vote des citoyens et la majorité qui sort des urnes. Donc, dans ce cas-là, le président devrait effectivement anticiper ce choix.
Est-ce qu'on a le souvenir effectivement de ce qui s'était passé dans les périodes de cohabitation? Comment le premier ministre avait été désigné? C'était celui qui avait conduit l'opposition, celle qui avait gagné dans les urnes. C'était comme ça que ça s'était passé à l'époque, Olivier Rosenberg?
On avait des tribunes de presse ou des discours de la nouvelle majorité parlementaire laissant entendre qu'ils avaient choisi et quelle serait la personnalité qui serait Premier ministre. Donc Jacques Chirac en 86, Édouard Balladur en 93, Lionel Jospin en 97. En 86, Mitterrand, comme souvent, une forme d'élégance en disant « je sais pas, j'hésite, je verrai qui je nomme », mais en fait il nomme celui qui est... légitime pour être Premier ministre aux yeux de la majorité. Il n'a pas tellement de choix, en fait.
Et imaginons que, cas d'école, enfin je ne sais pas, hypothèse, possibilité, la gauche soit gagnante au soir du 19 juin, soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Encore une fois, cette question légitime de notre auditeur, est-ce que Emmanuel Macron pourra nommer qui il le souhaite?
Ben, comme je vous le disais, il y a un vrai risque, s'il nomme pas Jean-Luc Mélenchon dans ce cas-là, que la personne nommée soit rejetée, sauf à ce que, par exemple, on peut fait beaucoup d'hypothèses, mais les socialistes décident d'arrêter de suivre la solidarité de la gauche, donc tout ça bon est un peu hypothétique, mais le plus probable c'est que dans ce cas-là le président fait la stratégie la plus prudente, qui est d'éviter de nommer quelqu'un qui serait désavoué la semaine d'après, ce qui l'affaiblirait beaucoup. Donc cela le pousserait plutôt à nommer Jean-Luc Mélenchon, je crois.
Merci pour cette réponse. On va repartir au standard de France Inter, retrouver cette fois Jean-Louis. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir à vous.
Vous êtes en Loire-Atlantique, à Saint-Herblain.
C'est cela, oui.
Banlieue de Nantes.
Oui.
Voilà, vous avez une question, Jean-Louis.
Oui, voilà, je voudrais savoir, parce que j'ai un petit différend avec mon beau-père, je voudrais savoir si pour les députés, s'il était obligatoire de s'inscrire dans une commission.
Alors, écoutez, nous, on est pour la paix des familles, hein, et on veut pas que vous ayez d'ennuis avec votre beau-père. Alors, on va poser les questions. Alors, Laurent Grandguillaume, vous qui avez siégé à l'Assemblée, est-ce que...
Ah bon, on est membre d'une commission, on choisit. En fait, il faut choisir. Par contre, on est membre d'un groupe, on s'inscrit dans un groupe. Alors après, il y a les non-inscrits. On va les mettre à part. Et c'est le groupe qui organise la représentation des différents membres du groupe dans les commissions. Mais on siège à une commission, de toute façon, c'est bien dans les commissions que se prépare aussi le travail qui ensuite est présenté dans l'hémicycle, que ce soit pour les projets de loi qui sont débattus, que les propositions de loi.
Des commissions qui sont des commissions permanentes qui,
Alors chaque commission se réunit chaque semaine pour étudier les différents textes. Et après, souvent, il y a une bataille après l'élection pour que le député qui souhaite être inscrit dans telle commission, eh bien, le soit bien, puisqu'il y a plus de demandes dans certaines commissions. Par exemple, la commission des lois, la commission des finances sont très demandées, puisque ce sont des commissions, on va dire, où l'essentiel des textes passe et sont soumis pour débat.
Il y a combien de commissions permanentes à l'Assemblée?
Il y en a 8.
Olivier Rosenberg.
Il y en avait 6 jusqu'à 2008. Donc c'était une volonté de Gaulle d'affaiblir le Parlement en ayant très peu de commissions. Et avec la révision constitutionnelle qui était adoptée sous Nicolas Sarkozy en 2008, on est passé de 6 à 8. Ce qui n'a pas changé énormément de choses. On a toujours beaucoup moins de commissions au Parlement français que dans les homologues européens. On est davantage vers une vingtaine de commissions et des commissions qui sont dans la continuité des branches de l'État et des branches de l'administration.
Je ne sais pas si Jean-Louis est toujours là pour savoir si finalement il va pouvoir dire à son beau-père qu'il avait raison. Jean-Louis, on a répondu à votre question?
J'ai pas tellement bien compris. C'est les groupes qui désignent parmi leurs députés le nombre et les noms des députés qui ont participé aux commissions, c'est ça? C'est les groupes qui désignent les députés.
C'est-à-dire que quand le député est élu, il s'inscrit dans un groupe, d'accord? Et c'est le groupe qui va avoir un nombre d'élus par commission, hein, selon son poids aussi dans l'hémicycle, et donc il va inscrire le député selon son choix, d'accord, à cette commission. Et donc, c'est souvent une négociation. Moi-même qui n'avais pas ces codes quand je suis entré à l'Assemblée nationale, puisque je ne venais pas du monde de parlementaire, j'ai découvert en étant élu, en fait, ce jeu de pouvoir qui existe à l'issue d'élections pour pouvoir participer à une commission. Alors, je me suis battu pour être membre de la commission des finances, mais c'est bien mon groupe qui a décidé de m'y inscrire.
Et c'est quelque chose d'essentiel, le travail en commission, Laurent Grandguillaume?
Je crois que c'était le travail le plus important, car l'essentiel se fait dans la commission. Alors bien sûr, l'hémicycle, par son symbole, est puissant. Il y a des débats très importants, mais c'est vrai que l'essentiel du travail se fait dans la commission, avec des administrateurs de l'Assemblée nationale qui vont accompagner les parlementaires sur les textes, avec les collaborateurs du groupe aussi, auquel il appartient. Et c'est là que se fait l'essentiel du travail, le questionnement. Les missions d'évaluation et de contrôle également, qui sont des missions importantes des parlementaires et pas suffisamment d'ailleurs développées dans le Parlement français.
Olivier Rosenberg?
Oui, la procédure législative donc pour adopter les lois a été revue lors de la révision constitutionnelle dont je vous parlais, celle de 2008, et a renforcé le rôle des commissions. Maintenant, le texte qui arrive en séance, le projet de loi du gouvernement, est le texte tel qu'il a été modifié par la commission. Donc les réunions en commission, ça peut durer une semaine, deux semaines, sur un projet de loi pour amender ce projet de loi, sont capitales, puisque le gouvernement va devoir amender en séance s'il veut rétablir son texte initial.
Laurent Grandguillaume, quand on arrive à l'Assemblée et qu'on est, comme vous l'avez été, un néophyte, c'est compliqué ou pas quand on arrive? On est un peu perdu ou pas?
C'est-à-dire que c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas un vrai process d'intégration. Vous voyez, vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous vous débrouillez un peu parce que, en fait, vous êtes face à d'autres parlementaires plus aguerris. Et puis chacun va essayer d'avoir l'espace le plus grand pour pouvoir porter aussi ses idées au sein du groupe. Donc c'est une difficulté quand même, hein, qu'il faut. Et je pense qu'il faut donc se préparer à ça. C'est-à-dire que quand on est candidat à une élection législative, bien sûr, il faut se préparer et essayer de faire en sorte de pouvoir être prêt au moment opportun. Moi, je sais que j'étais resté les deux premières semaines lorsque j'étais élu, j'étais resté à l'Assemblée nationale pour justement être bien présent là où il fallait pour être aux bons endroits, notamment à la commission des finances, là où je voulais être, hein, pour défendre un certain nombre d'idées. Mais ça a été compliqué, c'était un combat.
On n'est pas forcément chapeauté, hein, c'est ce que vous nous dites. On repart au standard, retrouver Eric cette fois. Bonsoir Eric.
Bonsoir à vous, bonsoir France Inter, bravo pour vos émissions.
Merci Eric.
C'est deux petites remarques. Tout d'abord, je pense que la proportionnelle doit être remise vraiment au goût du jour. Ça empêcherait, je trouve que ces unions qui sont très difficiles, que ce soit à droite ou à gauche, sont dues à des députés qui s'accrochent vraiment à leur circonscription. Et je trouve qu'à gauche, il faut remercier là, tous les députés qui se sont retirés de leur investiture qu'ils avaient prise avant l'accord de hier soir. Donc je pense que la proportionnelle, ça serait plus facile pour faire des unions, peut-être même à l'Assemblée. Voilà, ça c'est la première chose. Et ma deuxième remarque, c'est que en tant que citoyen, j'entends par exemple des députés le député sortant de ma circonscription qui va se battre pour les déserts. Je suis dans un monde très rural, dans le Lot, hein, qui va se battre pour les déserts médicaux. Alors j'en prends bien note. Qui va faire beaucoup de choses pour la ruralité. Mais par contre, moi je trouve qu'il n'y a pas de transparence. J'aimerais bien savoir ce que mon député ou les députés qui se présentent, qu'est-ce qu'ils vont voter quand M. Macron va proposer la retraite à 65 ans? Qu'est-ce qu'ils vont voter quand on va proposer le RSA, obliger les gens à travailler? Et ça serait même peut-être une bonne idée aussi pour les présidentielles, où par exemple, chaque candidat devrait avoir 50 questions et dire exactement ce qu'il va faire. Parce que je trouve qu'on fait confiance à un député, on s'aperçoit après qu'il a voté des fois pour une loi qui ne nous plaît pas du tout. Voilà.
Mais merci Eric. Il y en a de la matière dans ce que vous nous demandez. On va prendre les choses dans l'ordre. On va commencer peut-être par le mode de scrutin, puisque vous nous avez parlé de la proportionnelle. Ça va être l'occasion de rappeler comment on va voter les 12 et 19 juin. Olivier Rosenberg, scrutin uninominal, majoritaire à deux tours. Ça fait un peu barbare. Ça marche comment? C'est par circonscription.
Donc la France est découpée en 577 circonscriptions. Chaque circonscription va choisir un seul député qui sera un peu à la tête de ce petit bout de France. En moyenne, ça représente 120 000 électeurs, ce qui est exactement la moyenne des pays européens qui sont de taille similaire à côté de nous. Donc il n'y a pas davantage de députés en France, comme on l'entend parfois à tort. Si le député obtient la majorité absolue des voix et que cette majorité absolue des voix représente par ailleurs 25% des inscrits, il est élu.
Dès le premier tour.
Dès le premier tour. Ça arrivait il y a 20 ans, ça n'arrive plus aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui vont voter.
Parce que l'abstention est importante.
Parce que l'abstention est de plus en plus importante. Donc on va à un deuxième tour, vont au deuxième tour les deux premiers, ce qui est logique, et on peut avoir davantage de candidats, 3, 4, 5, si certains ont franchi la barre des 12,5% des inscrits. Mais là encore, avec l'abstention de 50% comme on a eu la dernière fois, 12,5% des inscrits, ça représente un quart des suffrages exprimés, ce qui est une barrière haute, après qui rend pas impossible la qualification d'un troisième candidat, surtout si on a une tripartition nette de la vie politique. Donc
ce qui va peut-être arriver.
La dernière fois, il y a eu une seule triangulaire sur les 577 circonscriptions, donc c'était très peu. Là, il pourrait peut-être y en avoir davantage.
Sur la deuxième partie maintenant de la question d'Éric, sur le suivi notamment du travail du parlementaire pour lequel il vote, du député pour lequel il vote, comment ça peut se passer? Comment on peut suivre le travail de son député, Laurent Grandguillaume?
Je dirais d'abord, on peut déjà interroger les candidats sur ce qu'ils vont faire lors des réunions publiques qu'ils organisent, mais aussi par écrit. pour avoir une réponse écrite, aussi sur le futur positionnement du candidat, hein, s'il était élu. Et ensuite, au moment des votes, alors tous les votes sont bien sûr notifiés. Hein, donc il y a différents sites aujourd'hui internet. Alors, il y a le site de l'Assemblée nationale, hein, sur lequel on peut aller, on voit les différents votes sur les scrutins qui sont organisés.
C'est-à-dire, par exemple, Laurent Grandguillaume, bon, vous n'êtes plus à l'Assemblée, mais imaginons que vous y soyez encore, vous êtes mon député, je vais sur le site de l'Assemblée, je tape votre nom, et là j'ai le résultat de tout ce que vous avez pu voter.
Alors, vous avez le résultat, vous avez les propositions de loi que j'ai pu déposer, les questions écrites aussi que j'ai pu déposer au gouvernement, les différents rapports que j'ai pu faire. Et il y a des sites qui vont encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils utilisent les données publiques, voilà, pour faire des analyses également de la présence, hein, des députés
l'observatoire
dans l'hémicycle ou en commission. Hein, donc c'est aussi intéressant, hein, de regarder cela. Et ça donne quand même une certaine image du travail aussi fait par le parlementaire. Alors il faut se méfier de la quantité, hein, parce que il faut aussi de la qualité. Si je suis présent à toutes les séances, mais que je ne prends jamais la parole, que je ne défends aucune position, quelle est l'utilité ? Je veux dire, la présence c'est bien, mais il faut de la qualité. Donc qu'est-ce que le parlementaire fait concrètement ? Eh bien, on retrouve ces informations, l'essentiel en tout cas, sur les sites publics.
Il y a une bonne façon de contrôler le travail de son député, Olivier Rosenberg, en France ?
Ben, pas vraiment.
Pas vraiment.
Pas vraiment. Bon, il y a ce site Nos députés qui est très bien fait, mais qui donne beaucoup de chiffres. Alors, les chiffres, c'est quand même assez réducteur. Il donne pas un seul chiffre, d'ailleurs. Il fait pas de classement, mais il donne une série de chiffres. Après, il faut passer du temps, hein, sur le site de l'Assemblée. Il faut s'y connaître un peu. Et je crois que nos institutions sont un petit peu en retard dans la pédagogie qu'ils doivent faire. Par exemple, je prends un exemple. Une loi importante qui était la loi sur la bioéthique, qui a étendu la
PMA. PMA,
comme vous le savez. Bon, c'est un petit peu intéressant de savoir si son député sortant s'est prononcé pour ou contre. Il y a des gens qui peuvent se prononcer sur cette question-là, des électeurs, en disant « voilà, j'ai un député qui était ouvert à ça ou opposé ». Et ben, la bonne chance, hein, il faut avoir un master de sciences politiques de Sciences Po pour maîtriser le site web de l'Assemblée, c'est un petit peu dommage.
C'est un petit peu dommage. Une question de Hugues par mail qui nous dit à quoi sert de voter pour un député de sa circonscription dès lors que celui-ci votera à l'Assemblée, non pas pour les promesses sur le local qui ont permis de l'élire, mais sur ordre du parti politique dont il est membre, Laurent Grandguillaume.
Bon, écoutez, après, on peut être discipliné et obéir. Hein. Je pense que la liberté est là un prix, sans doute, mais elle n'a pas de... Comment dire ? Je pense qu'il faut rester libre. C'est-à-dire qu'on est élu, d'accord ? On est élu par les citoyens, on est membre d'un groupe, mais on peut aussi prendre des positions différentes de son groupe. Ça m'est arrivé sur certains textes, je n'ai pas voté le texte. Je n'étais pas frondeur, mais en tout cas, je ne suivais pas forcément la discipline du groupe. On a pu me le reprocher au niveau de mon groupe, mais en tout cas, j'avais le sentiment d'être plutôt conforme aux engagements que j'avais pris devant les électeurs. Par exemple, quand j'ai été élu député, je me suis appliqué le non-cumul avec un exécutif local. Aucune loi ne me l'imposait. J'avais pris cet engagement devant les citoyens de démissionner de mes mandats d'exécutif, d'accord ? Donc, alors que dans le groupe, c'était pas tout à fait clair. Il y en a qui restaient, d'autres qui démissionnaient. Bon, et je pense que le parlementaire, le député, peut faire preuve aussi, exercer cette liberté. Il doit le faire, voilà, quand il considère que soit son groupe ne va pas dans le bon sens, soit même que le gouvernement se trompe, ce qui arrive régulièrement. Et donc, c'est au parlementaire aussi d'assumer son rôle. Et notamment les pouvoirs que lui confère la Constitution. C'est-à-dire, il n'est pas là que pour légiférer, il est là aussi pour contrôler l'exécutif, il faut le rappeler.
Ça, on va en parler effectivement du contrôle. Encore un mot, Olivier Rosenberg, sur la mission du député. Il représente qui, au fond ? Il représente la nation ou il représente les électeurs de sa circonscription, dans l'absolu ?
Le droit nous dit qu'il représente la nation. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'il peut ne pas habiter dans la circonscription où il va se porter candidat, comme M. Mélenchon, vraisemblablement. Enfin, sur la législature passée. Après, le droit n'est qu'une interprétation de la réalité. Et la pratique et le mode de scrutin le poussent à représenter sa circonscription. Et puis les partis de gauche considèrent notamment que... Enfin, il y a cette tradition à gauche que le député représente largement son parti. Donc il y a une subjectivité de l'objet de la représentation qui fait aussi sa richesse et la complexité des jeux politiques. Je voudrais dire un mot sur la question de votre auditeur sur à quoi ça sert à quoi sert mon député si finalement il est loyal. Pour moi, il y a une réponse très simple, c'est qu'il sert à amender. C'est-à-dire que, notamment pour un député de la majorité, à la fin, dans la plupart des cas, ils vont effectivement voter la loi qui leur a été demandée par le gouvernement. Mais ils vont regarder les articles, ils vont regarder le détail des sous-articles, et ils vont essayer du mieux possible, compte tenu des auditions, de leur sensibilité, des problèmes qu'ils rencontrent avec les vrais gens qu'ils rencontrent le week-end en circonscription, ils vont essayer d'améliorer la législation. Et très souvent, ils le font. Alors, c'est quelque chose de souterrain, de pas spectaculaire. Ça ne change rien. Il n'y a pas de suspense final sur le vote du texte. Mais ce texte ressort profondément modifié de son passage au Parlement. Je donne juste un chiffre. Il est multiplié par deux en volume. Donc, un projet de loi qui rentre avec 10 articles au Parlement, il en sort avec 20. C'est donc qu'il s'est passé quelque chose.
Il y a eu du travail.
Il y a eu du travail pour le pire, mais quand même surtout pour le meilleur.
C'était deux exemples quand même. C'est que sur le pouvoir d'amendement, la seule difficulté, c'est qu'il est quand même limité aujourd'hui dans la Ve République, parce qu'il m'est arrivé de mettre en minorité le gouvernement sur un amendement. C'est-à-dire que mes collègues parlementaires ont voté mon amendement contre l'avis du gouvernement. Mais le gouvernement a la possibilité de demander un deuxième vote. Et donc là, il mobilise tous les parlementaires pour revenir dans l'hémicycle et puis faire en sorte que cet amendement soit rejeté. Donc ça, c'est une première limite. Et il y a un autre élément à prendre en compte, c'est qu'une fois que la loi est votée, tout se passe aussi après, notamment dans la publication des décrets et des arrêtés. J'ai porté une proposition de loi, par exemple, quand j'étais médiateur entre les taxis, les VTC, les plateformes. Cette loi a été votée à l'unanimité au Parlement. Il m'a fallu, après avoir été élu, 5 ans de combat pour faire appliquer les derniers arrêtés en fait, de cette loi, d'accord ? Et même après que j'ai terminé mon mandat. Donc cela montre bien quand même qu'il faut se battre, donc effectivement par le droit d'amendement, peut-être le faire évoluer pour qu'il soit peut-être encore plus puissant hein, dans un rééquilibrage des pouvoirs, et ne pas oublier ensuite l'application de la loi à travers les décrets et les arrêtés, car c'est souvent là que le bât blesse.
Nous allons partir en Martinique. Bonsoir Livio, peut-être bonjour
bonsoir,
pour vous.
Bonsoir, ben oui. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, on vous reçoit 5
bonjour,
sur 5.
Bonjour merci de la Martinique et merci pour la qualité de vos émissions.
Merci d'appeler voilà. Livio. Vous aviez une question?
Voilà. Alors la question elle est très simple. On entend souvent dire que les députés sont influencés par le travail des lobbyistes. Le lobby de la santé, de la pharmacie, de la chasse, etc. Alors j'aimerais bien qu'on nous explique un petit peu comment ce travail de lobby est réellement effectué et dans quelle mesure où les députés sont influencés par ce travail de lobby.
Merci Livio voilà. pour cette question qui a l'air de beaucoup intéresser Laurent Grandguillaume.
Oui, bah, très concrètement, par exemple, quand j'étais député, je recevais des contributions écrites de lobby, qui étaient des associations ou des groupements d'intérêts, d'accord, et qui demandaient même des rendez-vous. Donc la difficulté, c'est qu'en France, en fait, quand vous recevez un groupement d'intérêts, ce n'est pas publié, ce n'est pas rendu public. Je pense que, par exemple, on pourrait tout à fait rendre public cela, c'est-à-dire vous recevez un groupement d'intérêts dans votre bureau qui vous propose une contribution écrite alors que vous êtes même rapporteur d'un texte, je pense que c'est utile que chacun le sache.
C'est-à-dire ils arrivent avec un texte qui est déjà prêt, c'est
ah,
ça
ils arrivent même avec des amendements pré-rédigés, si vous voulez, hein, c'est lobby. Alors, par contre, ce qui a évolué, ce qui est intéressant, c'est que la haute autorité, maintenant, un lobby doit être déclaré auprès d'une haute autorité. Donc, normalement, ces lobbies, ils sont connus, hein, ils sont dans un répertoire, et logiquement, les parlementaires vont se renseigner de savoir s'ils sont bien inscrits dans un répertoire avant de les recevoir. Mais je pense que, bon là on peut améliorer la transparence, mais là aussi, là où le bât blesse, souvent c'est après le vote de la loi. Car qui sait ce qui se passe ensuite quand les lobbies interviennent auprès du gouvernement une fois que la loi est votée? Et là je pense qu'on pourrait aussi améliorer la transparence en la matière, notamment sur la publication des décrets, et c'est là je pense que les parlementaires ont un pouvoir aussi important, et c'est important justement qu'il y ait des députés pour le faire, c'est qu'ils peuvent aussi contrôler le gouvernement à ce moment-là, dans l'application des textes. Et c'est vraiment très très important.
Ils arrivent, ils travaillent à visage découvert ou pas vraiment?
C'est à visage découvert. Oui. Hein, oui. C'est des cabinets de conseil, il n'y a pas de difficulté, je pense que là c'est un métier même, les gens qui travaillent dans ces domaines. Et donc,
ils viennent vous dire là, faudrait pas voter ça parce que sinon ça va mettre en difficulté tel secteur.
Ils viennent défendre la position, par exemple, d'entreprise, d'un secteur économique qui considère que telle disposition va aller contre leur intérêt. Et donc, quelque part, ça fait partie de la démocratie que d'avoir ces débats aussi avec ces groupements constitués. Mais je pense que justement, plutôt que de laisser penser qu'il y a des magouilles ou je ne sais quoi, bah, mettons cela au clair et avec transparence et disons qu'effectivement, tel lobby a été reçu à telle heure et qu'il a proposé telle contribution. Et ça serait, je pense, un peu plus clair pour le débat même avant que ça arrive dans l'hémicycle. Et ça doit exister dans d'autres pays, j'imagine, peut-être ce mode de fonctionnement un peu plus transparent.
Olivier Rosenberg.
C'est sûr qu'il y a eu quelques améliorations. Maintenant, les députés peuvent faire savoir que tel amendement leur a été suggéré par une association, parce qu'il y a aussi des associations, hein, des ONG dans ces lobbies, une entreprise, etc. Mais alors, ça, comme souvent, l'Assemblée va un petit peu lentement, donc c'est facultatif. Il y a cette possibilité, mais il n'y a pas d'obligation. Sur les lobbies, il faut quand même dire que les lobbies sont assez rationnels et ils influencent les plus influents. Donc ils vont chercher avant tout à influencer l'exécutif et ce qu'ils ont perdu, la chance qu'ils ont perdu au grattage de l'exécutif, ils laissaient au tirage de l'Assemblée. Par exemple, le glyphosate qui a beaucoup animé les esprits sous la législature précédente. Donc on peut considérer que c'est les agriculteurs en lobby qui voulaient maintenir l'autorisation du glyphosate. Eh bien, ils sont allés chercher un allié auprès du ministère de l'Agriculture plutôt qu'auprès des députés de la majorité qui étaient me semble-t-il, davantage soucieux de préoccupations environnementales qui s'entendaient dans leur circonscription.
Nous allons repartir au Standard de France Inter. Bonsoir Christelle.
Oui, bonsoir.
Merci
bonsoir
d'avoir patienté Christelle, merci
pas
beaucoup.
Pas de problème, merci. Oui, j'avais une question, comment sont découpées les circonscriptions? Moi j'habite Paris et il y a une partie de l'arrondissement qui est détenue par, qui est représentée par une élue de droite et l'autre partie de l'arrondissement qui est le délégué général de la République En Marche. Donc voilà.
Vous voulez savoir comment on fait avec les grands ciseaux pour le découpage, hein?
Oui, ça, voilà. Ouais.
Effectivement, Olivier Rosenberg, il y a eu des experts en la matière.
Ils sont découpés par la loi, hein, la loi organique qui découpe.
La loi, c'est...
Donc c'est les parlementaires.
Il y a quelqu'un qui décide derrière.
Les parlementaires qui majoritairement arrêtent cette loi.
Mais elle bouge les circonscriptions?
Elle bouge de temps en temps. On évite de trop les bouger parce que c'est souvent des controverses terribles. Donc souvent c'est tous les 10-15 ans qu'il y a des redécoupages avec effectivement certaines situations.
C'est jamais innocent.
Certaines situations, oui, on appelle ça du charcutage. Donc la technique consiste à assurer à ses opposants quelques circonscriptions sûres. Les opposants vont être calmés de ce point de vue-là, et puis avoir des circonscriptions où la majorité est légèrement majoritaire, ce qui permet d'augmenter son influence.
Laurent Grand-Guillaume.
Je vous donne un exemple, parce que c'est un exemple que j'ai vécu, c'est que j'étais élu de la première circonscription de la Côte d'Or, en fait, donc où il y a Dijon, et cette circonscription avait été découpée par Charles Pasqua pour qu'elle soit toujours, finalement, faite pour le maire de Dijon et à droite.
Et puis, grand expert en la matière, Charles Pasqua.
Voilà, Charles Pasqua était très fort en la matière. Et donc, moi j'ai été élu et je suis de gauche. Donc si vous voulez, quelque part, oui, c'est du charcutage. À certains moments, il y a eu du charcutage. Mais après, quand il y a une vague, je veux dire, elle peut emporter aussi même parfois des circonscriptions qui ont été découpées pour...
Là-dessus, pour ajouter un mot, le Conseil constitutionnel va contrôler cette loi de découpage et a mis des règles pour qu'on puisse pas faire n'importe quoi. Par exemple, la règle de la continuité territoriale ou pour limiter les déficits de population. Donc on n'est pas dans la situation des États-Unis où là on a carrément des points disparates pour charcuter les circonscriptions.
Denis est à Carquefou. Bonsoir Denis.
Oui, bonsoir à tous.
Merci d'avoir appelé. Denis, vous avez une question?
Oui, j'aimerais savoir combien coûte le fonctionnement de l'Assemblée nationale avec le salaire des députés, le salaire du personnel, les indemnités, les primes, etc. Parce que c'est des chiffres qui ne sont pas faciles à trouver.
Merci Denis. Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent sur l'application de France Inter sur le même sujet, Olivier Rosenberg. Est-ce qu'on peut répondre?
Oui, on peut répondre parce que les chiffres sont très clairs et sont publiés. Ça coûte 600 millions d'euros par an. Donc si on rapporte ça au nombre de députés, 1 million d'euros par député et par an.
De fonctionnement?
De budget total.
Budget total.
De budget total. Investissement, fonctionnement, personnel, bâtiment, électricité, etc.
Le prix de la démocratie.
Si on fait la comparaison avec nos voisins européens, encore une fois, on est au niveau des pays riches d'Europe, voilà. Donc on dépense dans les mêmes eaux que les Allemands. On dépense moins que les champions du monde en la matière, qui sont les Italiens. Bon, il faut dire que par ailleurs, il y a un financement public des partis politiques qui vient s'ajouter au fonctionnement institutionnel. Et le record est détenu par le Parlement européen, qui a un budget de 2 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, l'Assemblée nationale avec 600 millions est en dessous.
Alors ça, c'est pour ce que coûte l'Assemblée maintenant. Il y avait aussi la question de la rémunération des députés. Il y a plusieurs choses là-dedans. Est-ce qu'on peut expliquer, Laurent Grandguillaume, ce qu'il en est ?
Un parlementaire a une indemnité de député qui l'a chaque mois.
Et puis, on peut dire de combien elle est ?
Alors après, à l'époque, c'était plus de 5000 euros. Alors maintenant, je ne sais pas, peut-être c'est à peu près, voilà. Et par ailleurs, il a une indemnité pour ses frais de mandat, qui fait souvent d'ailleurs l'objet de polémiques, régulièrement dans les médias. Et cette indemnité, elle est destinée au fonctionnement, notamment par exemple un parlementaire va louer une permanence parlementaire. Donc vous avez payé un loyer pour cette permanence parlementaire, vous avez loué une photocopieuse, il y a tout le matériel, on va dire, qui est utilisé pour ce mandat. Par contre, moi, ce que je trouve qu'il manque aujourd'hui au Parlement, et puis c'est pas forcément bien de le dire comme ça parce que c'est pas dans l'air du temps, mais il faut savoir qu'un parlementaire, quand il est rapporteur d'un texte, il a accès aux administrateurs de l'Assemblée nationale pour l'aider. S'il n'est pas rapporteur, il n'a pas accès à ses administrateurs. Donc finalement, il y a un combat inégal, si vous voulez, parce que le parlementaire, il n'a pas, je pense, en tout cas, accès à suffisamment d'experts autour de lui pour faire face parfois justement aussi à des lobbies, parfois au gouvernement, dans certains débats qui sont très ardus, qui peuvent être de spécialistes. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est un point sur lequel il faudrait évoluer. Voilà. Et je crois que d'ailleurs aux États-Unis, notamment, les parlementaires, ils ont beaucoup plus d'équipes d'experts pour analyser les dossiers sur le fond qu'aujourd'hui en France.
Une question de Christine qui a patienté depuis un petit moment. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Vous êtes en Haute-Savoie.
Oui, c'est ça. Je voulais savoir à quoi ça rime de nommer maintenant qu'Emmanuel Macron nomme un gouvernement, étant donné qu'il peut être démis de ses fonctions dans un mois. Et concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce qu'il va être moins efficace que le gouvernement qui sort pour gérer les affaires courantes. Et puis, est-ce qu'il peut vraiment commencer à mettre en œuvre le nouveau programme d'Emmanuel Macron ?
Alors on va poser la question. Allez, Olivier Rosenberg, c'est vrai que...
Quelque part, Emmanuel Macron vous donne un peu raison, vu qu'il se refuse à nommer un nouveau Premier ministre pour le moment.
Il fait durer le plaisir.
Il fait durer le plaisir. Peut-être qu'il a aussi un petit problème pour savoir qui nommer. Vous avez un peu raison sur le à quoi ça rime. C'est-à-dire, quand on a un nouveau président d'alternance, ce qui s'est passé quand Emmanuel Macron est arrivé, c'est un petit peu logique qu'il ait un gouvernement à sa main, qu'il soit avec lequel il puisse travailler pendant un mois en bonne intelligence. Dans cette période très rare de réélection d'un président, on est dans de l'inédit. Le gouvernement fait beaucoup de choses parce qu'il y a des affaires courantes à régler, parce qu'il y a des inondations en Guadeloupe, etc. Et l'État demande des centaines de décisions et d'actions au quotidien. En revanche, ce qu'il ne peut pas faire jusqu'à la fin juin, c'est légiférer. C'est adopter des lois comme l'Assemblée nationale est suspendue.
Alors une question. Alors il y a Eric qui est au standard, mais on va pas pouvoir le prendre parce qu'on a seulement 2 minutes qui nous restent. Mais je vais vous la poser parce qu'il y a aussi Jacques qui nous la pose sur le site de France Inter. Eric nous dit pourquoi les députés aux États-Unis ont deux fois moins de députés alors qu'ils sont plus nombreux. Et Jacques qui nous dit est-ce qu'il serait possible de faire avec moins de députés à l'Assemblée nationale? Ça, c'est sur le nombre de députés, Laurent Grandguillaume.
Écoutez, moi déjà, quand j'étais parlementaire, entre le travail que j'avais de mes permanences, on va dire dans la circonscription, le travail des commissions, le travail dans l'hémicycle pour bien faire ce travail, franchement, c'était 7 jours sur 7 et c'était plus qu'à plein temps. Donc je ne pense pas qu'il faille diminuer le nombre de parlementaires.
Faut le temps d'aller dans la circonscription aussi.
C'est pas que ça, je pense que c'est vraiment...
C'est du boulot.
Il y a de quoi faire et franchement, si on veut pouvoir justement contrôler aussi l'action du gouvernement, il faut en face des députés qui soient aguerris, spécialisés sur des sujets et je pense qu'il ne faut pas réduire le nombre de députés.
Olivier Rosenberg.
Les États-Unis ont des parlementaires dans chacun de leurs 50 États qui sont rémunérés et professionnels, donc la comparaison elle se ferait plutôt à ce niveau-là. Comme je vous disais, on a un député pour 120 000 électeurs. Si on réduit d'un tiers le nombre de députés, on s'envole sur des ratios qu'on ne trouve pas en Europe pour l'instant. Un député pour 180 000 électeurs. Donc, c'est possible, et l'Assemblée nationale fonctionnerait, peut-être même qu'elle fonctionnerait mieux, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura un prix en termes de lien électoral qu'on peut vouloir payer ou ne pas vouloir payer.
Si on devait, pour terminer, donner la priorité des priorités pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée et puis du travail des parlementaires, Laurent Grandguillaume, ce serait quoi pour vous la priorité aujourd'hui?
Pour moi aujourd'hui, la priorité, je vous dis, c'est pour moi, ça serait vraiment les moyens humains qui sont affectés aux parlementaires pour leur travail d'évaluation et de contrôle de l'action du gouvernement.
C'est pour moi le plus important. Et déjà de formation aussi quand ils arrivent sur place.
Et profiter du mois, on va dire, d'intégration, voilà, pour leur apporter tous les éléments qui vont leur permettre de bien faire leur travail dans les meilleures conditions possibles.
Merci beaucoup. Et pour vous, Olivier Rosenberg, s'il peut y avoir une priorité pour améliorer
J'abonde totalement. Il me semble qu'aussi que la proportionnelle indirectement conduirait à avoir des jeux politiques plus intéressants et plus dynamiques à l'Assemblée.
Voilà, le débat est loin d'être clos sur ce sujet. Juste après les informations de 20h, l'heure philo. Bonsoir Patricia
Bonsoir,
Martin.
Bonsoir Claire Servageon.
Avec qui allez-vous parler ce soir?
Avec Patrice Maniglier qui va tout nous dire sur Bruno Latour, grand philosophe contemporain, qui va nous expliquer comment nous avons besoin de la terre pour y vivre, figurez-vous, pour être des humains.
Effectivement, ça c'est la priorité des priorités. Merci beaucoup Patricia Martin, à tout à l'heure.